Brassage. Et recharge.
Il y a une belle tête de vainqueur.
Si tu m'emmerdes avec Brassage, hein?
Je préfère une macouillotte au fond du ravin.
T'es baissé, s'ils sont au moins vite.
Qu'est-ce que t'es
baissé? Non, ne dites pas que t'es baissé. Dites.
Dérochage.
Hein?
Bonjour et bienvenue sur Radio Grenouille, vous écoutez Dérochage. Aujourd'hui, on vous parle des robots au cinéma. Autour de la table, on a Romain, bonjour.
Bonjour.
Cédric.
Salut.
Hélé.
Bonjour.
Cyril.
Yo.
Et Patrick.
Hello.
Mais pour commencer cette thématique sur les robots, je vais citer les trois lois de la robotique d'Isaac Asimov. Première loi, un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi. Troisième loi, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième. Mais d'abord, avant de commencer... Oui, Romain ?
C'est qui, Isaac Asimov ?
Bah justement, avant de commencer, je vais laisser Cédric en parler. Donc Cédric, est-ce que tu peux... vite fait nous parler d'Isaac Asimov et après on reviendra sur l'origine du mot robot. Mais d'abord Isaac Asimov.
Isaac Asimov en deux mots, donc c'est un auteur, donc un écrivain de science-fiction voilà, et de vulgarisation scientifique, mais surtout de science-fiction donc du XXe siècle, hein, qui est né donc dans les années 1920. C'est un Russe d'origine, mais en fait il a été naturalisé américain. Voilà, c'était ce qu'on appelle un polymathe. C'est-à-dire quelqu'un qui avait de grandes connaissances scientifiques et artistiques dans de nombreux domaines. Voilà. Et donc je reviendrai après sur son travail. Je pense qu'on va d'abord donc voir un peu l'origine du robot et de l'idée même de faire un robot voilà, ou d'un être artificiel. Voilà.
Alors.
Donc dans l'histoire, donc on commence hein, par l'Antiquité. Déjà, on trouve déjà des embryons donc de l'idée du robot. Hein. Donc par exemple chez les Grecs, il y avait déjà le fait que Héphaïstos, le dieu donc forgeron, qui était capable de créer des êtres artificiels mécaniques, donc des robots hein, d'or notamment, pour remplacer les êtres humains jaloux de son frère Glorias que les hommes adoraient beaucoup plus que lui. Donc on trouve déjà souvent donc l'idée donc de ces êtres qui évoquent la peur. Je crois que Cyril avait d'autres exemples.
Ouais. Alors à propos d'Héphaïstos, dans le chant 18 de l'Iliade donc de Homère, Héphaïstos qui est considéré comme le premier fabricant de créatures artificielles techniques, il avait fabriqué des tables sur trois pieds, par exemple munies de roues. Ces tables étaient autonomes, elles se rendaient seules vers l'Olympe pour y transporter les produits de la forge d'Héphaïstos. Donc il avait également construit deux servantes en or, ce dont tu parlais, qu'il assistait dans ses travaux et qui pouvaient parler et penser.
D'accord, merci Cyril.
Voilà. Et donc ensuite on retrouve aussi bon dans d'autres mythologies encore d'autres traces. Il y avait aussi un ami de Platon, je crois, Cyril, qui avait lui réellement fabriqué un premier être mécanique.
Oui, alors l'ancêtre des robots dans l'Antiquité, ce sont des poupées mécaniques, donc que des inventeurs et monteurs de curiosité pouvaient montrer à des publics assez bourgeois. Avant ça, en 380 avant Jésus-Christ, donc Archytas de Tarente, un ami de Platon, avait construit un pigeon de bois. C'était un oiseau suspendu à l'extrémité d'une barre.
Le premier robot est un pigeon.
Voilà. Mais c'était pas pour qu'on lui tire dessus. Hein. Donc, c'était un oiseau suspendu à l'extrémité d'une barre qui tournait sur lui-même grâce à un jet d'air comprimé.
D'accord.
Des millionnaires voilà. Avant Duck Hunt. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu vidéo sur la Nintendo.
Voilà. Ensuite, bon, à la Renaissance, on trouve Da Vinci aussi qui a fait des recherches, mais on ne sait pas si elles ont abouti vers des essais donc d'hommes mécaniques, notamment de cavaliers comme ça qui pouvaient être commandés. Je crois que Cyril avait encore d'autres exemples.
Ouais. Donc, au XIIIe siècle, ce sont des androïdes rudimentaires. Il y a quelques exemples. Donc Roger Bacon avait fait une tête parlante et Albertus Magnus avait fait un homme de fer. Johann Müller aussi, astronome allemand, avait construit un aigle mécanique qui pouvait, selon la tradition, voler.
D'accord.
Voilà, et puis je crois aussi un lion mécanique la cour de Louis XIV.
Non, qui pouvait... alors Louis XII, vers Louis 1500, s'était fait construire un lion d'or qui, sur l'ordre du roi, pouvait marcher vers le roi et s'arrêter, montrer majestueusement les armoiries de France.
Voilà, alors il n'y a peut-être pas la reconnaissance vocale, mais...
Non.
Ok. Bon, ensuite, donc, on arrive vers le 19e siècle, plutôt, où il y a déjà des histoires qui ont commencé à germer, comme ça, d'êtres humains qui deviennent mécaniques, ou de... Bon, des fois, des histoires qui évoquent un peu la peur, quand même. Et donc, il ne faut pas oublier qu'on est à l'ère de la révolution industrielle, donc la technologie grandit, elle fait des fois peur, et en plus, donc, on commence vraiment à avoir la conviction qu'on pourra un jour arriver à fabriquer des robots, c'est-à-dire des êtres, le terme n'apparaît pas encore, mais des êtres humains complètement artificiels et mécaniques. Donc on va notamment avoir, en 1920... deux contre-exemples qui mènent quand même vers une vision plus saine du robot, en tout cas d'un robot plus sympathique. Donc d'abord une pièce de Čapek, hein, en 1920, dans laquelle Čapek ou Čapek, hein, c'est un tchèque, invente le mot robot. En fait, il n'invente pas réellement. C'est un mot dans les langues slaves qui veut dire esclave ou travailleur dévoué. Voilà, ça évoque un travail pénible. Donc déjà, c'est associé à cette idée. Donc je crois que t'as lu la pièce.
Ouais, donc exactement, le mot donc vient du tchèque robota, qui signifie le travail d'un serf ou d'un asservi. Donc c'est un mot qui a été introduit en anglais puisqu'il est traduit, puis en français à cause de la pièce de théâtre écrite en 1920 et jouée pour la première fois en 1921, due à cet écrivain tchèque Karel Čapek ou Čapek, je sais pas comment on dit. Le titre, c'était Robot universel de Rossum. Pourquoi? Parce que l'histoire, je sais pas si je peux...
Vas-y.
Voilà. Alors, l'histoire, en fait, c'est un industriel qui s'appelle Rossum, qui produit dans son atelier des machines androïdes ayant une remarquable capacité de travail. Des robots dactylos, des robots majordomes, des robots ouvriers. Dès le début de la pièce, les machines de Rossum se vendent très bien à d'autres industriels qui les mettent au travail dans leurs propres usines. Les robots se perfectionnent et apprennent même à penser par eux-mêmes sans pour autant ressentir d'émotion ou avoir une âme. Ils finissent même par se soulever et prendre le dessus sur leurs maîtres humains. C'est ainsi que naquit donc un des traits caractéristiques des robots, du moins dans la fiction. Ils désirent ardemment se mesurer aux hommes. Donc on peut faire un rapprochement entre le rapport des hommes et des dieux. Un des personnages de la pièce résume comme suit l'essentiel du problème. Un robot peut remplacer deux travailleurs et demi. La machine humaine était terriblement imparfaite. Elle devait disparaître tôt ou tard.
D'accord, merci.
D'accord, voilà. Donc c'est amusant en plus de voir que robot, par exemple en russe, ça veut dire travailleur. Voilà. Ensuite, on a aussi le premier film... véritablement qui traite des robots, hein, le premier exemple fort, en tout cas Metropolis en 1927, chef-d'œuvre de Fritz Lang. Voilà, donc je pense qu'il y en a qui l'ont vu autour de cette table.
Oui,
voilà.
Quand même.
Oui.
Voilà, on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure. Et ensuite, là arrive la bombe, donc le fameux Isaac Asimov, donc dont on vous a un peu parlé au début, qui écrit de nombreux romans et nouvelles de science-fiction, notamment tout un cycle sur les robots, et notamment donc. Dans l'une de ses œuvres, il invente le terme de robotique, qui est la science des robots, on va dire. Il y a plusieurs définitions possibles, mais c'est celle-là la plus réelle. Et donc au début, c'est marrant parce qu'il pense pas avoir inventé ce mot, il pense que ça existe déjà. Et en même temps, il énonce les trois lois de la robotique qui vont être très récurrentes dans son œuvre, et on le verra après dans tout ce qui suit, dans beaucoup de choses après lui. Donc les trois règles qu'on a énoncées tout à l'heure, qui doivent en fait régir le comportement d'un robot et donc préserver l'homme du danger potentiel d'un robot. Donc ce qui est important, c'est que lui, donc, il renouvelle le genre, notamment parce que lui, il aime pas du tout les histoires comme ça où la créature se retourne contre son créateur, comme c'est le cas par exemple dans Frankenstein, où c'est pas un robot, mais pareil, c'est une créature androïde qui se retourne comme ça contre son créateur. Donc lui, il va plutôt l'utiliser comme un plaidoyer contre le racisme. Voilà, au plus les robots sont sophistiqués, au plus ils sont détestés par les êtres humains, même s'ils sont irréprochables compte tenu de ces trois lois. Voilà, donc c'est le cas par exemple dans l'homme bicentenaire, qui a été adapté en film donc si je me trompe pas, Chris Columbus, voilà, en 99. Il y en a aussi qui ont vu ce film, je sais pas s'il y en a qui veulent raconter en deux mots. L'homme bicentenaire.
Oui, l'homme bicentenaire, ben en fait c'est un robot qui se lie d'amitié avec des humains, et donc... puisqu'il a des relations avec ses humains, bah, il veut vieillir en même temps qu'eux, et donc il fait tout un processus pour devenir lui-même humain, quoi, et donc vieillir avec ses proches.
D'accord. Le robot, voilà, qui veut devenir humain.
C'est joué, je crois, par
Robin Williams.
Par Robin Williams. Donc ça reste quand même la question du robot. Reste quand même toutes ces questions donc sont là pour être aussi un reflet. De ces questions de différence entre les êtres dans notre société. Voilà. Et donc ce qui est fort aussi, c'est qu'il va jouer, il énonce les trois lois, mais en fait tout son jeu d'écriture se base sur trouver les failles de ces lois, en disant qu'il faut, c'est normal d'énoncer ces lois, elles sont logiques, mais en même temps, il y aura forcément des failles.
Du coup, il crée la loi zéro.
Il crée donc la loi zéro, mais il la teste aussi. Il voit qu'elle n'est pas parfaite, la loi zéro. La loi zéro, en fait, c'est la même chose que la loi 1, sauf que ça dit qu'un robot ne peut pas faire du mal à l'humanité ou laisser faire un acte qui peut faire souffrir l'humanité.
C'est pas vraiment la même chose.
C'est pas vraiment la même chose. Les autres lois doivent la respecter, mais en même temps, la première loi étant la plus forte, finalement, hein, ça veut dire, comme dans iRobot, par exemple, qui a été également adapté au cinéma. Donc,
dans Wall-E.
Ou dans Wall-E. Mais dans iRobot, c'est inspiré d'Isaac Asimov, mais c'est quand même très largement, c'est très ouvert. Hein, c'est pas exactement du Asimov.
C'est quand même sur les trois lois de Asimov. Hein.
Oui, c'est posé sur les trois lois et c'est exploité.
Et vaguement sur les scénarios. Ouais. Ils n'auraient peut-être pas été complètement d'accord, même si on retrouve quand même l'idée que, voilà, en fait, même la loi zéro peut se retourner contre l'homme, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans iRobot? Eh bien, simplement, on va dire qu'il y a une entité centrale, une intelligence centrale qui régit tous les robots et qui décide de tuer les hommes. Pourquoi ? Parce qu'elle elle estime que l'homme est le plus grand danger de l'homme.
Voilà, donc si vous n'aviez pas vu le film, il vous a flingué la fin, mais c'est pas grave.
Voilà.
C'est pas grave, ça. De toute façon, c'est pas super.
Mais bon. En même temps, c'est pas un bon film.
Ça voilà, c'est exactement ça. Bon, bah merci
voilà.
Cédric. Oui, enfin, on reviendra peut-être après sur au moment du débat. Merci beaucoup. Donc après, on va revenir sur un débat concernant la vision des robots au Japon. Mais d'abord, on va écouter Daft Punk, Robot Rock. Alors, c'était Daft Punk, Robot Rock. Vous écoutez Radio Grenouille, Dérochage sur les robots. Pour commencer ce débat, je voulais aborder une question importante. C'est la vision des robots au Japon. Donc Cédric, toi, t'avais un peu fait des recherches dessus.
Ouais, ouais. Donc, bon, déjà, je m'excuse pour avoir dit que iRobot est un mauvais film. C'est un point de vue personnel.
On ne peut pas se permettre de dire ça, ouais.
Donc voilà, on en était resté donc sur la vision d'Asimov, qui a beaucoup inspiré le cinéma occidental. Mais où quand même le robot va toujours inspirer un peu une peur, et on va voir que la vision japonaise est quand même assez différente, parce qu'au Japon le thème du robot c'est pas forcément de la science-fiction, mais ça peut devenir une réelle anticipation. Donc tout simplement il y a plusieurs références qui vont nous faire comprendre donc la position du Japon, des Japonais. D'abord la référence manga incontournable, grâce au personnage de manga d'Astro Boy. Donc Astro Boy, c'est un personnage créé en 1952 par Osamu Tezuka, qui a également écrit donc
le Metropolis en japanime.
Voilà, en japanime, qui a été plus tard, il y a quelques années, transposé sur grand écran, mais après sa mort. Donc voilà, on est à ce moment-là en 1952 dans le Japon d'après-guerre. Les gens sont pauvres, ils n'ont pas à manger et tout ça. Donc quand ce personnage va arriver, ça va être notamment pour les enfants un espoir et un synonyme de rêve. Donc ça va être une grosse influence, parce que les Japonais, après ça, les générations d'après vont vouloir faire des robots et continuer à surfer sur cette vague d'histoire autour des robots et tout. Il y a aussi la religion qui est très importante. Au Japon, les deux religions principales, c'est le shintoïsme et le bouddhisme, qui, à l'image de l'animisme, donc pense qu'en toute chose, et non pas en tout être, mais en toute chose, il y a une âme. C'est-à-dire que même un objet, et pas seulement comme par exemple dans la mythologie grecque, les éléments naturels, même un objet a une âme immortelle. Voilà. Donc les robots, c'est ça qui est très 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 intéressant, c'est que par définition au Japon, les robots ont une âme avant d'avoir une intelligence. Avant qu'on se pose la question d'une intelligence artificielle, d'une réflexion, ils ont une âme. Donc on peut les respecter en tant que tels. Donc voilà. Oui. Donc la question humain-robot, contrairement à chez nous où on est plus terre-à-terre pour le moment, c'est plus une image à la rigueur qui peut répondre par écho comme ça avec notre société à nous, pour les Japonais, la question d'égalité ou pas entre les humains et les robots, c'est de la prospective. C'est quelque chose qui doit arriver, puisqu'on le sait, les Japonais sont très friands de robots. Il y a beaucoup de robots aujourd'hui, la moitié sont donc des robots domestiques, ça peut être des aspirateurs automatiques, des choses comme ça, mais ou des
robots à apparence plus ou moins humaine.
Voilà, ou des petits chiens et tout. Mais c'est vrai que les robots commercialisés, la moitié sont au Japon, quoi. Et il y a déjà des pièces de théâtre qui se jouent avec des humains et des robots au Japon. Il y a beaucoup de choses au Japon. Les Japonais pensent. Vas-y, tu voulais dire un truc.
Les ministres des Affaires étrangères se font recevoir par des robots.
Voilà. Alors là, voilà, au Japon, vraiment les robots androïdes, c'est-à-dire les robots qui ont une forme relativement humaine, on va dire en tout cas avec des bras, des jambes, une tête, sont déjà assez présents, et on développe les robots aussi dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que pour les Japonais en 2015, les robots vont se balader dans la rue. Le premier objectif, c'est d'aider les handicapés, les personnes handicapées et les personnes âgées, c'est déjà utilisé donc pour les transporter dans l'hôpital, pour leur donner des médicaments et tout, parce que la population vieillit, il y a donc peu de renouvellement de la population, en même temps ils sont nombreux, et pour eux, pour les Japonais, il y a des études qui ont été menées là-dessus. De toute manière, ils pensent que la solution, c'est pas l'immigration, mais c'est les robots.
Ouais. Voilà. Et du coup, dans quel film on peut ressentir ça, donc, l'omniprésence des robots
japonais. Toute l'histoire d'Astro Boy, qui a influencé le cinéma, où le Astro Boy se bat pour aider les humains, mais également les robots, alors que les robots sont pas encore reconnus en tant qu'égaux des humains, c'est très important.
Ghost in the Shell.
Voilà, et Ghost in the Shell en 95, qui est le film à voir, le film d'animation, le long métrage d'animation japonais à voir, et en
ça
plus
traite
qui
traite. Ça traite de quoi exactement, ouais.
Alors Ghost in the Shell, donc c'est l'histoire d'une femme policière. Alors je me souviens plus du nom par contre.
Je n'ai pas.
C'est pas grave.
C'est
un cyborg. C'est-à-dire un cyborg. En fait, c'est un mélange d'être humain et d'être artificiel. C'est-à-dire que c'est un robot en fait, mais en fait, c'est pas vraiment un robot parce qu'elle a un cerveau humain. Voilà.
Et donc, elle se souvient de quand elle était sensible à l'alcool, etc.
Mais parce qu'elle a quelque chose de particulier, parce que c'est des choses qui reviennent de la vie de son cerveau, de l'ancienne vie de son cerveau.
C'est donc tiré de Robocop qui était sorti en 88.
Bref, ce qui est important,
Ça se suit. Oui.
Ghost in the Shell, ça veut dire l'esprit, le fantôme dans le coquillage. Le coquillage, en fait, c'est dans chez les robots. C'est ce qui
c'est l'armature.
Contient l'intelligence artificielle. Voilà. On parle pas d'elle, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un cyberterroriste et on se rend compte que ce cyberterroriste est une intelligence artificielle, c'est-à-dire plus seulement un cerveau humain dans le corps d'un robot, et que lui. Donc c'est la première entité de ce genre, intelligence artificielle, qui équivaut à la pensée d'un être humain. Et il veut fusionner avec elle pour non plus se cloner, mais créer une nouvelle espèce et donc propager la vie, mais la vie artificielle à la base. Voilà. Et c'est vraiment un film qui est intéressant parce qu'il y a de l'action et tout, mais il y a vraiment toute une réflexion dans le film. Voilà. D'accord. 95.
D'accord. D'autres films références, Patrick ?
Alors, ben justement, on parlait de Fritz Lang tout à l'heure avec Metropolis. Il y a la version donc en japanime de Tezuka.
C'est la même histoire à peu près.
C'est à peu près la même histoire.
C'est quoi,
oui, bien sûr, c'est basé. C'est quoi l'histoire en fait? C'est je sais pas si ça se passe vraiment dans le futur ou pas, mais donc c'est dans une société plus évoluée que celle qu'on a actuellement en tout cas, où la ville de Metropolis est basée sur donc ça se passe sur le continent asiatique. C'est une ville qui est établie en couches et chaque niveau est bien régi, il y a des frontières, etc. Et si vous voulez, donc à la surface ne peuvent être que les humains ou alors les robots autorisés, et en dessous, donc niveau -1 par exemple, vous avez les égouts avec les robots qui se chargent de faire le boulot des éboueurs. Niveau -2, c'est encore autre chose, etc., etc. À chaque fois, on descend dans une sorte de classe sociale.
Ok, et au niveau de l'histoire, il se passe quoi exactement?
Il se passe quoi? Donc, en fait, c'est la présence de robots, justement, à l'étage, à la surface. Et vous avez un enquêteur qui vient du Japon, justement, qui vient enquêter dans Metropolis. Et il se fait, justement, aider par, non pas un enquêteur local, mais un robot.
D'où la deuxième partie du débat.
Exactement.
Qui le est rapport, donc, robot,
les relations, voilà, homme-robot. Ouais.
Donc, qu'est-ce qu'on a comme exemple? Donc, on a Metropolis.
Metropolis, donc d'ailleurs, justement, où l'enquêteur japonais appelle non plus son robot par son nom de code, qui est un truc complètement abracadabra, avec trois tirés, primes, etc. Mais ils veulent l'appeler Médor, puisque, pour lui, c'est quelque chose qui sonne déjà un peu plus...
Comme un chien.
Voilà, exactement. Il le dit, c'est le nom d'un chien. Et c'est déjà plus... Il y a déjà plus une relation plus facile qu'avec un nom,
c'est sûr.
Presque un code d'arbre.
Ça humanise, du coup, un peu.
Exactement.
Tu disais... Oui, Cyril ?
Oui, alors, c'est pas exactement... sur le rapport avec le robot en tant que comme on l'a défini, mais ça remonte aux métamorphoses d'Ovid avec le mythe de Pygmalion. Déjà les rapports entre les robots et les humains, faut savoir, bon, pour un bref récapitulatif, que Pygmalion est le roi légendaire de Chypre, c'était aussi un sculpteur de talent, et donc comme il n'arrivait pas à trouver une femme qui le satisfaisait, il a créé une statue d'ivoire qu'il appellera plus tard Galatea, qui était l'image de la perfection esthétique dont il tomba amoureux. Aphrodite insuffla la vie à la statue parce qu'elle était sensible aux supplications de Pygmalion. Donc ce rapport où le créateur tombe amoureux de sa création, en l'occurrence, bon là c'est une statue parce que c'est l'Antiquité, mais après ça peut être des robots, a été repris par exemple par l'écrivain irlandais George Bernard Shaw, qui s'inspire du thème du créateur amoureux de sa créature dans Pygmalion en 1913, adapté au cinéma par, figurez-vous, George Cukor sous le titre de My Fair Lady avec Audrey Hepburn. Puis par Edmund Cooper dans Pygmalion 2113, qui est un double hommage au mythe
Pygmalion
et à George Bernard Shaw.
Le titre
fait plaisir.
Alors Romain, par rapport au rapport amoureux entre robots et humains, qu'est-ce que tu nous as trouvé?
Eh ben, je vais vous donner du Pygmalion robotisé pour 2050. Je cite. Alors, il s'appelle David Levy, il vient de l'université de Maastricht. Et en fait, lui, il a repris un peu toutes les raisons qui poussent les humains à tomber amoureux en termes de psychanalyse. Et cet homme-là, il nous dit, donc outre le fait qu'il explique la manière dont on tombe amoureux entre les humains, qu'en 2050, on pourra assister, bon c'est des prévisions, mais on pourrait assister à un mariage entre un humain et un robot. Où dans ça, l'état dans du Massachusetts.
Pourquoi le Massachusetts?
Parce que le Massachusetts, c'est un des états où la juridiction des États-Unis est la plus libre. Et en fait, c'est eux qui ont été à l'initiative du mariage gay, en fait.
Et là, moi, premiers.
Voilà, donc,
le rapport, oui, vas-y.
Voilà, c'est juste comme c'est eux les plus libérés, en fait.
Voilà, l'ouverture d'esprit qui pourrait permettre.
Donc le mariage humain-robot,
voilà.
Parlons-en.
tous à Boston si vous avez des envies avec votre grippin.
Dans AI. Dans AI.
Oui, dans AI. Alors le nom de Jude Law, donc qui est l'acteur, il joue un robot. Patrick.
Gigolo Joe.
Et en fait, Gigolo Joe est simplement un robot, un robot prostitué pour
donc
ses dames.
Relation sexuelle.
Relation sexuelle. Alors bon.
L'homme parfait peut-être.
Vous allez me dire quand même, c'est un peu farfelu, un humain qui couche avec un robot, un humain qui peut tomber amoureux d'un robot. Pas tant que ça. Alors l'article sur lequel je me suis basé, il date de 2007. Et donc un humain, comment ça tombe amoureux? David Levy y répond en nous disant. Par exemple, je cite, « Une chose qui pousse les humains à tomber amoureux sont les similarités avec la personnalité et le savoir, et ces deux traits sont programmables. » Autrement dit, on peut programmer ces deux traits dans un robot, et donc ce ne serait pas impossible qu'il y ait une attraction entre un humain et un robot pour ces raisons-là. Et il finit aussi en précisant que les gens sont amoureux plus facilement des gens qui leur ressemblent. On peut très bien concevoir quelqu'un qui ressemble à son idéologie que physique.
Donc, Philippe Kadic n'avait pas tort en écrivant AI et qu'il peut y avoir des relations entre hommes et robots.
Mais comme quoi, c'est pas juste une histoire de taille. Hein.
C'est pas. Merci, Cyril.
Alors, bon, c'est vrai qu'il faut mettre un petit bémol, hein, je reprends. C'est vrai que ça va pas être pour tout de suite. Hein, comme on dit, la première prévision, c'est 2050. Mais c'est vrai que si on regarde un peu, on parlait tout à l'heure des robots qui sont implantés dans le Japon actuel. Qui n'a pas eu son Tamagotchi déjà à l'époque,
hein,
son petit robot dont on est tous tombés fous amoureux et qu'on a voulu éduquer, qu'on allait faire caca et tout, très bien. Et
après on dirait la classe.
Le cimetière pour Tamagotchi.
Oui. Bon, un peu moins répandu parce que plus cher aussi, le chien Eibo de Sony, donc le petit chien voilà, qui apprend au fur et à mesure avec son propriétaire. Donc voilà, l'idée de David Levy, elle n'est pas si saugrenue. Et si on met en exergue que les robots vont être de plus en plus humains dans leur aspect, ben pourquoi pas un humain qui tombe amoureux et qui, a fortiori, veut se marier avec. Pardon. Voilà, je finirai juste par une petite citation assez marrante. Levy, donc le chercheur que je cite depuis tout à l'heure, imagine remplacer le « chéri, pas ce soir, j'ai la migraine » par « chéri, j'ai une migraine, pourquoi ne pas utiliser le robot ?»
Les relations du futur.
Voilà, après,
le ménage à trois avec le robot.
Exactement, c'est génial. Voilà, donc le sexe avec les robots, oui, c'est une possibilité.
D'accord.
J'aimerais dire que je trouve ça un peu glauque, mais j'ai peur que si on ressorte l'émission dans 50 ans, je passe pour un robot fab, alors je dirais rien.
Alors, sur ce, avant de continuer le débat, on va faire une autre pause musicale et on va écouter The Prodigy Invaders Must Die. We'll be right back. venez d'entendre The Prodigy Invaders Must Die de leur prochain album qu'on attend avec impatience. Vous écoutez toujours Dérochage sur Radio Grenouille. Aujourd'hui, on vous parle des robots. Donc tout à l'heure, on s'est quitté sur un espèce de débat sur le rapport entre les robots et les humains. Donc Cédric, tu avais peut-être quelque chose à rajouter par rapport à Animatrix, toi, tout à l'heure.
Ouais, ben, voilà, ce qui est aussi intéressant, dans le rapport entre les humains et le robot, il y a le rapport personnel, c'est-à-dire un humain et un robot, et puis il y a aussi le rapport de la société, donc ce dont on commençait déjà à parler un peu tout à l'heure avec la vision du Japon, c'est-à-dire comment on va intégrer, si les robots existent, comment les intégrer dans la société ? Est-ce que c'est nos égaux, etc. Et donc moi, donc souvent en fait, on s'aperçoit dans les histoires qui développent ce thème que les robots sont mal perçus par les hommes dès qu'ils deviennent trop proches des hommes, trop semblables. Les hommes ont peur et donc deviennent violents, et c'est souvent eux en fait qui posent problème dans le rapprochement des deux. Donc c'est aussi une belle image sur encore une fois sur l'esprit humain, en tout cas l'esprit de masse. Et notamment, moi je vous conseille Animatrix. Alors Animatrix, en fait, c'est une série de courts-métrages d'animation japonais qui ont été réalisés, donc enfin qui sont sortis en 2002 en DVD. Ça se situe entre le premier Matrix et le second Matrix. Même si vous aimez pas vraiment Matrix, vous en avez marre, si vous les avez pas vus, moi je vous les conseille. C'est des petites histoires, il y a plusieurs histoires différentes, mais il y en a vraiment deux qui sont géniales, qui se suivent en fait. C'est la seconde renaissance, en deux parties. Donc en fait, c'est les frères Wachowski qui ont écrit les scénarios.
Les réalisateurs de Matrix.
Donc c'est des Américains, mais quand même, c'est fortement inspiré quand même de l'univers japonais, et notamment là. Donc c'est de la très belle animation, c'est plusieurs studios qui ont fait les autres, et donc ça raconte comment on est arrivé donc à l'histoire de Matrix, à cette confrontation, à cette servitude des humains pour les machines, et en fait on s'aperçoit que
par les machines,
et on s'aperçoit en fait que les machines, elles se sont développées certes, mais elles ont voulu toujours faire la paix avec les humains, c'est les humains qui ont voulu leur faire la guerre, et donc elles n'ont plus que d'autres recours que d'asservir les êtres humains pour les écraser. Donc voilà, et c'est très intéressant, même visuellement, et tout ça, je vous conseille.
D'accord, merci Cédric. Mais parler d'Animatrix, c'est bien, mais il faut quand même un peu parler de Matrix, pour le coup.
Bien sûr, quand même.
Donc Romain, je sens que tu viens de faire ce plaisir.
Je suis chaud bouillant. Non, Matrix, bah, outre la révolution visuelle au niveau des effets spéciaux que ça engendrait,
le fameux bullet time.
Notamment ouais. L'utilisation... Bon, ce n'était pas un procédé nouveau, parce
Michel
qu'il a été plus ou moins inventé par
oui,
le Frenchie.
Michel Gondry.
Non, mais c'est lui qui l'a repris dans ses
clips. Juste pour préciser...
Alors, le bullet time, en gros, vous prenez un homme, vous lui faites faire des mouvements, et autour de lui, il y a à peu près 150 appareils photo réflexes qu'ils le prennent tout à un intervalle de, allez, on va dire, un millième de seconde.
D'où l'effet au ralenti.
Et vous pouvez tourner sur tous les axes autour du monomètre.
Voilà. Ça donne, en fait, le résultat, c'est qu'on a un personnage qui est figé dans le temps et on a l'impression que la caméra s'est déplacée à une vitesse folle.
Tout le monde, presque tout le monde a vu Matrix. Donc, les robots dans Matrix.
Alors, ce qui est bizarre, c'est que quand on regarde Matrix la première fois, on pense pas du tout aux robots parce qu'ils utilisent le terme de machine déjà.
C'est vrai.
Le truc, c'est que quand on voit la trilogie dans son ensemble, on peut plus ne pas parler de robot, parce que de toute façon, l'entité qui crée la matrice est un robot qui vole dans les airs, qui ressemble à une espèce de gros poisson joufflu avec des pics de partout, qu'on voit à la fin de Matrix Revolution. Voilà. Ou Cédric?
En fait, quand on est dans la matrice elle-même, en fait, c'est plus des programmes, mais on peut quand même en parler parce que c'est des intelligences artificielles, etc. Oui. Voilà.
D'ailleurs, si vous regardez Matrix, vous comprendrez à partir de quoi l'intelligence artificielle était la cause de l'inversion du pouvoir entre les machines et les humains.
Mais là,
pour résumer, Matrix, quand même, au final, c'est des robots qui ont trouvé l'astuce au cours de la guerre qui a eu entre les humains et les robots pour asservir les humains qui leur servent de batterie, quoi.
C'est ça.
Voilà. Donc c'est vrai que c'est un univers complètement décalé par rapport à tous les univers de robots qu'on a pu voir, parce que c'est une vision un peu différente au niveau de l'humanité, tout ce que ça engendre. Mais on peut quand même parler de robots, et c'est de toute façon un film qui est spectaculaire à voir, une idée complètement tordue comme les Wachowski savent faire. Puis,
Mais là, ça soulève un peu une idée de la frontière entre qu'est-ce qu'un robot finalement. Est-ce qu'on parle d'intelligence artificielle? Est-ce qu'on parle uniquement de cette machine un peu humaine qui nous rend service, d'esclave? Oui, Cédric.
Alors moi j'ai trouvé une définition de robot. Donc c'est un système automatique mécanisé qui accomplit des tâches de façon autonome grâce en suivant en tout cas un programme informatique. Donc
à la base, c'est pour nous servir qu'on a créé les robots.
Oui, à la base c'est pour nous servir.
Sauf qu'au cinéma, on les a vus souvent au contraire se rebeller fabriquer des robots à partir d'êtres humains. Voilà, donc moi, ça, je pense à Robocop,
oui, ou Terminator.
Alors là, c'est Terminator. Là, c'est des cyborgs.
Avec le gouvernateur.
Les cyborgs qui sont moitié artificiels, moitié mécaniques. Voilà, où il y a quand même une part d'être humain dedans.
D'accord. Alors justement, il y a Michel Chion donc, qui décrit les robots dans les films de trois manières différentes. Il parle donc des premiers qui sont donc d'aspect extérieur incompatible avec l'idée d'un acteur à l'intérieur. Donc ça, c'est le cas justement dans iRobot ou dans la dernière série de Star Wars.
Quelque... Oui.
Puisque on voit bien que le personnage qui est à l'écran est beaucoup plus mince que un humain peut l'être.
Oui, alors
donc,
que dans Star Wars, c'est
on comprend
trop
que ça ne peut pas être un acteur qui est à l'intérieur, en fait.
Ouais.
À savoir d'ailleurs que pour ces 3PO, ils avaient pris expressément un acteur très fin, Anthony
très
Daniels,
fin, très grand, ouais.
Pour faire ces 3PO, parce qu'il fait qu'il rentre dans le costume mince déjà de ces 3PO. C'était un marionnettiste.
Mais dans R2-D2 aussi,
c'est
un
mime.
Marionnettiste, enfin, ça sert un peu à rien pour faire
un pantomime, voilà. Enfin, donc deuxième aspect, il y a donc aspect extérieur métallique, mais compatible avec les proportions d'un acteur à l'intérieur. Donc ça, c'est justement le cas de ces 3PO dans Star Wars.
Voilà. Terminator, mais bon, c'est facile pour Terminator.
Ouais, oui, justement, Terminator, il s'inscrit plutôt dans la troisième catégorie, voilà. Qui est celle-ci, qui est donc aspect parfaitement androïde et peut donc être joué par des acteurs connus et reconnaissables.
Donc c'est le cas dans
Blade Runner, c'est le cas dans AI, c'est le cas donc dans justement Terminator.
Ouais, tout à fait. Donc, on a ces trois sortes de robots. Donc, le robot qui est vraiment différent de nous, enfin, quoique toujours ressemblant. Enfin, on est d'accord qu'à chaque fois qu'on a une... Quand on pense au robot, on pense quand même à une chose avec des bras, des jambes, une tête. Après...
Oui, il peut y avoir, par exemple,
voilà,
comme dans
Matrix,
dans
ça n'a rien à voir.
Dans Short Circuit, vous avez donc le fameux Johnny 5 qui, en fait, pour ceux qui connaissent plus Wall-E, c'est exactement... L'aspect de Wall-E, enfin, pour ceux qui ont vu Wall-E, c'est vraiment le même, quoi. Il est vraiment, Wall-E est énormément inspiré de ce fameux Johnny 5.
D'ailleurs, Wall-E, je voulais que.
Ouais, moi, je veux bien parler un peu de Wall-E, parce que je l'ai vu, et d'ailleurs, je l'ai beaucoup apprécié. Donc, bah, Wall-E, enfin, juste pour ceux qui l'ont pas vu, c'est.
Ouais, je l'ai pas vu.
Bah voilà, bah, je t'explique un petit peu ce que c'est. C'est, en fait, ça fait 700 ans que les humains ont quitté la Terre parce qu'en fait, il y avait trop de déchets, leurs déchets d'ailleurs, et ils ont laissé des robots sur Terre pour nettoyer la Terre. Sauf que au moment du film, donc il y a un seul robot qui persiste, c'est Wall-E, et qui doit en fait composter les déchets, et donc bah évidemment, il se sent quand même assez seul. Et donc Wall-E qui est donc seul sur Terre, le seul robot sur Terre, un robot quand même assez proche de l'humain, enfin qui a un petit nid où il habite.
Si ce n'est qu'il a pas de jambes, c'est tout. Il a juste des chenilles.
Non, mais physiquement il ressemble en rien à un humain. C'est juste en fait dans sa façon d'agir qu'il ressemble à un humain.
Et en fait des collections.
Oui, voilà, c'est ça. Il récupère plein d'objets.
Même sans savoir ce à quoi ça sert. Hein.
C'est juste pour une collection.
La balle de ping-pong, la raquette avec le.
Moi j'ai pas vu le film, s'il te plaît.
Non, mais c'est juste que c'est juste qu'il voilà, il récupère plein d'objets qui lui paraissent intéressants pour les mettre là où il vit. Et en fait, donc il se sent quand même très seul parce qu'il est seul. Il a juste un petit ami qui est une espèce de
cafard.
Voilà.
Un cafard.
Qui se balade partout. Et en fait, jusqu'au jour où sur Terre va débarquer Eve. Qui est aussi un robot féminin et donc va se nouer une histoire entre Wall-E et Eve.
Un robot Macintosh d'ailleurs.
Ah ouais.
Oui.
C'est pour ça qu'on a dit
c'était un robot proche de l'iPod.
Un robot que quand il s'allume fait un bruit d'un certain ordinateur.
Non, ça c'est Wall-E.
Ça, c'est blanc avec une pomme.
Oui, bah, les autres ordinateurs ont été designés par les designers de ces ordinateurs.
Eve fait très de la marque de cet ordinateur.
Bon, ce qui est logique quand même.
Ça va les private jokes.
Ce qui est logique étant donné que ça a été fait par Pixar.
Et Pixar
a été cofondé par
Steve Jobs.
Voilà, Steve Jobs.
Bon, qui est
le boss de
Apple.
Bref, donc ce film il est intéressant aussi parce qu'en fait il traite aussi de l'humanisation des robots. Parce que Wall-E, on peut considérer vraiment qu'il s'humanise justement tout au long du film. Et en fait, bah, par exemple, il a besoin de lumière pour se développer, donc il profite des bienfaits de la photosynthèse. Donc en fait, parallèlement à cette humanisation des robots.
Non, la photosynthèse, c'est chez les plantes.
Non, mais justement, la première plante qu'il retrouve, Eve vient la récupérer. Donc il n'y a pas de photosynthèse.
Mais il profite.
Elle est dans le micro.
Il profite de la photosynthèse dans le sens où les plantes ont besoin de lumière pour.
Oui.
Mais Wall-E aussi.
Oui, mais Wall-E aussi. Non, mais comme un être vivant, peut-être pas.
Oui, oui.
C'est de la mécanosynthèse, je sais pas.
De la mécanosynthèse.
Oui, bon. Il a des capteurs solaires, voilà.
Il y a des ouais, il a un capteur solaire qui, justement, bah, c'est ça, quand il les ouvre, que ça fait le bruit de.
Romance sur fond écolo, truc. Merci. Ça donne envie. Voilà. Hein.
Non, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que, donc, effectivement, il s'humanise, ce robot. Contrairement, justement, à la deuxième partie où on voit plus les humains qui, eux, sont complètement déshumanisés.
Ils sont complètement assistés
par les robots.
Ils boivent du coca toute la journée.
Ils sont complètement, donc, assistés par les robots qui leur font tout. Ils n'arrivent même pas à interagir les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'ils sont seuls face à toutes les technologies qu'ils ont et sans faire le moindre effort. C'est pour ça qu'on justement on disait qu'ils étaient grosses, parce qu'ils marchent même plus en fait.
Ils sont sur des fauteuils
qui se déplacent, et ils sont complètement à la merci de de la nouvelle technologie et des robots.
Les robots plus humains que les humains. Ouais ouais.
Toutes les fonctions ils les font plus. Voilà, ils sont en partie remplacés par les robots. Ouais. Donc c'est un avenir un peu moche. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça fait un peu avertir les enfants. De certaines choses sur l'écologie.
C'est à la fois diététique et écologique.
De l'écologie, dans le sens où justement aussi c'est vrai que ça a une portée écologique, ce film, parce que en fait la Terre est désertée par les humains, et en fait c'est grâce à Eve justement qui va ramener une plante et qui va prouver que la vie peut être renouvelée sur Terre. Et c'est grâce en fait à Wally et Eve que les humains vont se rendre compte qu'ils peuvent retourner sur Terre, mais qu'ils vont avoir besoin de renouveler leur façon de vivre, parce que c'est justement leur grosse consommation qui a fait la perte de la Terre, et c'est que avec une nouvelle façon de vivre qu'ils vont pouvoir revenir sur Terre. Et
ouais, c'est très écolo, mais c'est super mignon. Moi j'ai beaucoup pour un Pixar, toujours bien Pixar.
Ouais, donc là en fait on est dans l'exemple du robot qui aide l'homme, voire qui sauve l'homme. Ouais. Mais il faut pas oublier que le méchant c'est le vaisseau dans l'histoire.
Oui. Hein, et référence à 2001, l'Odyssée de l'espace, voilà, de Stanley Kubrick.
Une référence qui est souvent reprise avec le robot qui dirige le vaisseau dans 2001, l'Odyssée de l'espace, et qui se rebelle contre l'homme et qui s'appelle
Al. Voilà. Et si vous décalez d'une lettre dans l'alphabet toutes les lettres de H-A-L, Al, ça fait
IBM.
IBM,
oui.
Voilà. Kubrick ne l'a jamais avoué, mais bon, étant donné que le modèle d'IBM de l'ordinateur le plus puissant du monde était quand même à l'écran dans 2001 de l'Odyssée de l'espace.
Voilà.
Merci. La pub au cinéma.
C'est un personnage. Alors, 2001 de l'Odyssée de l'espace, donc c'est Al, c'est une intelligence artificielle qui est presque un robot parce qu'il dirige finalement le vaisseau, comme maman dans Alien.
C'est vraiment
un personnage qui a marqué, parce que on le signifie à l'image juste par une sorte de lumière rouge, comme un œil qui surveille comme ça, et c'est un élément qui a tellement bien marché visuellement et dans le ressenti au cinéma qu'il a vraiment été très souvent repris.
Mais il est angoissant, ce
même souvent comme pastiche et tout.
Ouais, mais il est super angoissant. Et là, c'est un robot qui entoure l'humain pour le coup dans le film. Donc on
là,
se sent
l'humain
entouré,
est dans le robot,
menacé totalement par le robot, quoi. Oui.
D'après ce que j'ai pu voir, il y a un phénomène d'émulation dans le monde des robots et du cinéma autour de 2001, l'Odyssée de l'espace.
Ouais.
On dit souvent qu'il y a avant 2001 et après 2001.
Ouais, c'est vrai.
Alors pourquoi?
Quelle année 2001, pardon?
68. On a cherché.
Voilà.
Tout à l'heure.
Ça nous fait une petite chronologie. Alors, il y a eu l'avant 68, c'est comme mes...
Pourquoi il y a eu l'avant et l'après 2001, l'Odyssée de l'espace? C'est tout simplement parce qu'en fait, Al, en fait, il acquiert une conscience en fait au fur et à mesure du film, et il prend ses choix justement d'interférer avec la vie des humains, voilà. Et ça, c'était repris souvent par la suite.
Donc, ça pose encore le problème de quelle est la nature des relations entre l'humain et le robot, parce que, bon, je pourrais en parler, mais on verra si on a le temps. Dans la mythologie, à la base, c'est pas des rapports super sympas, mais comme dans Wally, dont nous expliquait Ellie, les rapports sont assez sympathiques. Donc Ellie, vas-y, continue.
Oui, par rapport aux lois d'Asimov et Wally.
Ben non, mais en fait, c'est juste que dans ce film, les robots, ils sont à la fois ceux qui contrôlent l'humanité et qui la dirigent, parce que justement, les humains sont réduits à néant parce qu'ils font plus aucun effort. Mais c'est aussi eux, par justement Wally et Eve, qui vont réussir à réhumaniser, on va dire, la conduite des humains, justement.
Donc ils répondent aux lois d'Asimov. Mais il y a aussi l'idée, comme dans... Enfin, plus ou moins, parce qu'il y a aussi l'idée, comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace, où le robot... Enfin, dans 2001, le robot est programmé pour se... Enfin...
Pour sauvegarder les humains pendant leur voyage jusqu'à Mars.
D'accord. Bah, dans Wally, c'est un peu ça aussi l'idée. C'est un peu le vaisseau a été programmé par un humain, dont on voit d'ailleurs, c'est le seul personnage qui n'est pas en animation, mais en image réelle, qui a programmé ce robot en leur disant, enfin ce vaisseau en disant, ne retournez pas sur Terre, c'est pas possible, c'est une catastrophe, n'y retournez jamais. Du coup, le robot empêche les humains d'y retourner. Enfin, vraiment comme dans 2001, et du coup, là, ça répond aux lois d'Asimov, mais surtout à la loi zéro.
il a changé d'avis alors qu'il n'est pas censé avoir un avis.
Certes, mais non, ouais. Il n'a pas changé là, d'avis.
Là, oui, il devait les ramener sur Terre et puis il veut plus parce
non,
qu'il veut
il,
plus
s'en séparer. Il n'a pas changé d'avis. Oui. Il a répondu à ce qu'on lui avait demandé. C'est par un humain. Mais... C'est un humain qui lui avait donné ce qu'il
voulait. Ah oui, c'est vrai.
Il obéit à une directive humaine.
Oui, d'où la... Attends, et donc ça comme répond à la loi zéro.
Comme c'est un robot informatique, lui, il analyse que
ah,
la
non,
loi à laquelle il doit
pas.
Obéir.
Les robots qui y réfléchissent. Où est-ce qu'il y
oui,
en a
Oui, mais il y a erreur en fin de compte, parce qu'il ne réfléchit pas justement qu'en en fin de compte, il devrait ramener les humains sur Terre.
Non, non, on lui a dit au début, fin, ramener les humains sur comme... Terre. Non, non, on lui a dit au début, le personnage du gouverneur ou du... Non, non, du chef...
Du président.
Ouais, de... du président qui lui dit ramène les humains sur Terre. Et après, on voit une autre vidéo, une deuxième vidéo cachée. Il dit non, au contraire, ne les ramenez pas. C'est ça.
Ah
donc
oui.
Le robot ne réfléchit pas.
Oui, mais s'il répond
c'est
à la loi.
C'est rare qu'on voit.
S'il répond à la loi d'Asimov, il doit préserver quand même l'humanité.
Et ben
là,
il préserve l'humanité.
Pas qu'il doit préserver l'humanité.
Oui, mais oui. Si justement il préserve l'humanité en les laissant dans le vaisseau.
Yeah. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on rentre quand même dans la psychologie du robot.
Oui, c'est vrai.
Et bon, c'est ce que j'essaie de dire. C'est que, en fait, il y a une grosse différence entre le fond, voilà, bon, entre le robot en métal, etc., qui est un peu lourdeau, là, c'est 3PO, etc., et vraiment l'intellect du robot, le côté psychanalyste, parce que faut pas oublier que le robot, dès la base, c'est quand même une comparaison avec l'être humain.
Oui.
Voilà, c'est le robot apprend au fur et à mesure, le robot va faire ses choix et le robot va développer sa propre appréciation des choses. Donc il y a quand même une. Enfin voilà, bon, ouais. Wally, ok.
Cyril,
ça va plus loin.
Cyril, tu voulais rajouter
oui,
quelque chose ?
Donc quand tu parles de robots et d'humains, il faut savoir que dans la mythologie, les humains, nous, on est les premiers robots. Dans l'imaginaire de l'humanité, on est les premiers robots. Il y a des tablettes mésopotamiennes qui ont été retrouvées, qui datent de plusieurs milliers d'années, qui racontent cette histoire. Donc je raconte. Les dieux vivaient entre eux dans une société inégalitaire. On a déjà les bases égalité, inégalité, voilà. La majorité travaillait pour le compte d'une élite oisive. Un jour, les travailleurs divins, se jugeant exploités, se révoltèrent. Le dieu des techniques proposa alors qu'on fabrique des pantins doués de vie qu'on mettrait au travail à la place des dieux. Ce furent les hommes. Pour que ces esclaves ne puissent pas se révolter, on les fit nettement inférieurs aux dieux et voués à la mort.
Donc, en fait, les humains sont les premiers robots des dieux.
Exactement. Les pantins, ils disent, mais
oui,
c'est ça.
Les pantins. Et par rapport à ça, du coup, on va voir quelle est la réelle place. Pardon, Cédric, oui, tu voulais rajouter quelque chose ?
Ben oui, parce que c'est ça vraiment qui est super important aussi comme thème, c'est que l'humain, en créant le robot, notamment son image, eh ben, en fait, il se retrouve à la place du créateur ultime,
oui.
Donc Dieu. Donc voilà, c'est exactement ce que
donc,
tu
l'humain
dis.
Se
si c'est l'humain
pour Dieu.
Comme c'est l'humain qui a voilà. Créé le dieu, en quelque sorte.
Sauf oui. Que Dieu ne peut pas les humains ne peuvent pas se retourner contre Dieu.
Oui, voilà. Enfin, bon, bah, on va peut-être pas partir dans ce débat, entendu. Ce sera, je pense, une autre
quelque
fois.
Quelque part, n'empêche, métaphysiquement, on atteint quand même le domaine du libre-arbitre. Hein.
C'est vrai, c'est vrai.
Voilà.
Mais moi, je voulais quand même souligner une question importante. Quelle est la réelle place des robots, parce qu'on parle quand même des robots au cinéma, la réelle place des robots au cinéma, pour vous ?
Bah, on parlait de sentiments tout à l'heure. Moi, je pense que, je sais pas si c'est de ça dont tu parles quand tu parles de 2001, avant, après 2001, de l'espace. Moi, je pense qu'il y a les films où... ce sont les humains qui sont jaloux des robots et les films où c'est exactement l'inverse. Donc,
des exemples ?
Bah, des exemples, par exemple, on a des films comme donc Metropolis, donc le Japanime, où ce sont les humains qui sont jaloux des robots et donc qui veulent les exterminer. On peut comparer ça aussi également au Nexus 6 qui est trop évolué pour le distinguer d'un humain d'un robot dans Blade Runner. Et à l'inverse, on a justement les robots qui s'insurgent contre les humains dans, par exemple, Terminator,
oui.
Où c'est justement une révolution
Matrix,
des robots qui en ont assez d'être justement les larbins des humains.
Donc en fait, après 2001, on a eu vraiment une psychologie du robot.
Mais,
on a vu le robot comme un personnage en tant que tel.
Je peux préciser quelque chose, quand même, que c'est les deux choses dont il a parlé, là, et on parle de la psychologie des robots, ça vient quand même de ce dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la première pièce de théâtre, Robot universel de Rossum, qui parle de robots qui se rebellent contre les humains. Donc c'est pas forcément en rapport avec 2001, l'Odyssée de l'espace.
Oui, le
c'est un thème universel
ouais,
qui a été
repris. Romain,
on parle de cinéma, Coco.
On parle de cinéma.
Cinéma.
Oui, c'est vrai, on parle de cinéma.
Ça n'empêche pas que
donc,
le thème
au cinéma, on reste sur la toile. Au
bon,
cinéma, pourquoi
non,
un avant-après 2001, Romain ?
Eh ben, je vais utiliser un autre terme qui va reprendre un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'amour entre les robots et les humains. Là, on va parler d'affect chez les robots. Voilà, donc ça rejoint un peu ce que disait Patrick tout à l'heure au niveau des sentiments. C'est vrai que là, il va vraiment développer... Enfin, voilà, c'est l'évolution du robot en fonction de ce qu'il va apprendre des humains. Et forcément, les humains, ils ressentent des sentiments. Et les robots, comme ils sont basés sur des algorithmes qu'ont programmé des humains,
sinon, du coup, les robots ressentent.
Du coup, les robots
ça
sont
nous fait
capables.
Un robot dépressif dans l'âge de G2, je tenais à le dire. J'avais envie de le préciser quand même.
Voilà.
Qu'il est assez génial, celui-là. Oui, elle est.
Juste, bah, ça me fait penser aussi à Wally qui, quand il tombe amoureux de Eve, qui est aussi un autre robot, il essaye quand même de recréer ce qu'il a vu dans une vieille vidéo de comédie musicale entre aussi, humains. Ouais. Et en fait, il essaye de recréer la même chose. Donc, c'est bien aussi ce que tu dis, le
quand
fait
il
que.
Se prend la main, ouais.
Voilà.
C'est vrai.
Mmh. Yeah.
Oui, Dieu a inspiré les humains. Les humains ont créé l'homme. Les humains ont créé, pardon, le robot vraiment comme eux, ils pensaient qu'ils devaient être. C'est pour ça que là, il a une difficulté supplémentaire par rapport à nous.
Oui, Cédric.
Ouais. Rajouter quand même quelque chose d'Asimov qui à un moment dans une de ses œuvres se pose la question avec l'un de ses personnages de si les humains qui doivent répondre naturellement, normalement, aux trois règles de la robotique. Hein, puisqu'il ne faut pas tuer, il ne faut pas faire de choses à l'encontre de la vie d'un être humain, etc. Donc se demande vraiment quelle est la différence entre un robot et un humain. Est-ce qu'on carrément un robot, on pourrait pas l'appeler un être humain aussi? Et il dit si un être humain répond vraiment strictement aux trois règles de la robotique, ben en fait c'est un robot. Mais en même temps c'est pas juste au sens mécanique un robot, c'est simplement un être bon.
D'accord.
Voilà. Et donc en fait un robot, si on suit les trois règles, c'est un être bon. Donc c'est vraiment un humain amélioré. Donc, voilà. Mais il y a quand même cette peur du robot qui est forcément plus fort parce qu'il est métallique. Enfin voilà, c'est à la base et qui peut nous remplacer. Voilà.
Ou ça peut être un humain très sombre aussi. Moi, je pense à Futurama, par exemple.
Bender.
Je tenais à parler de Bender. On peut en parler parce qu'il y a eu des longs métrages de Futurama. Bender, robot alcoolique.
Bender,
ça,
robot
c'est
alcoolique.
Un super
robot. Tordeur, tordeur aussi. Hein.
Ouais.
Exactement. Ah, mais qui alors, fait des rêves un peu bizarres. Hein.
Ouais, puisqu'il veut détruire l'humanité. Alors bon, on en rigole deux secondes, mais même dans Futurama, c'est un bon exemple Futurama pour parler des films dont on a parlé et qui ont beaucoup influencé. Par exemple, dans Futurama, il y a un épisode où il y a le vaisseau qui se rebelle comme Hal avec un œil rouge.
Ouais,
de la même manière qu'il y a Bender qui va sur une planète où les robots se sont réfugiés et qui veulent tuer tous les humains, etc. Voilà, c'est juste la petite parenthèse, mais c'est un exemple. Voilà.
Je crois que Bender tombe amoureux aussi dans un autre épisode.
Oui, du robot, du vaisseau.
Mais n'empêche, c'est marrant ce qu'il dit parce qu'on parle que les robots c'est inspiré de la mythologie, mais au final, on parle des trois lois d'Asimov de la même manière que les humains ils ont été guidés par les 10 commandements
à
l'époque.
Ouais.
Hein.
Ouais,
exactement.
Vrai.
Donc il y a beaucoup de parallèles entre les deux.
Ouais.
C'est vrai. Donc sur ce, je pense qu'on va se quitter. Merci beaucoup à tous. Merci à Seb dans la régie. Merci à tous de nous avoir écoutés. Donc maintenant, on va entendre un morceau de Mode Selector, Tetris Pack.
Let's listen to another track off the album. This one is called Tetris Pack.
This is Manhattan BPC 115 FM.